Bien, écoutez, il est 4 heures, nous pouvons commencer. Donc c'est l'avant-dernier des séminaires du jeudi à 16 heures. Et aujourd'hui, peut-être l'idée, c'est d'entrer un peu plus dans l'atelier typographique, puisque dans les séminaires précédents, en mettant à part la conférence, très belle conférence faite par Daniel Fabre, nous avons porté l'attention dans ce séminaire surtout sur la figure des copistes et que le travail de copiste, soit dans la longue durée de la transmission des textes avec l'attention portée aux copistes de l'Antiquité et puis plus indirectement aux copistes médiévaux qui se saisissant à un moment donné de l'histoire des textes antiques dans la forme des rouleaux, les transformant en codex ou codices manuscrits et qui les mènent jusqu'à nous. On s'était intéressé aussi au rôle des copistes qui établissent la copie au propre, la copia in limpio, qui est endressée pour le censeur de façon à obtenir la licence et le privilège, ou qui ensuite peut entrer dans l'atelier typographique comme étant la copie qui va être préparée par le correcteur, le copy editor, pour l'impression. Et puis aussi, nous avions rencontré ces copistes qui prennent les textes sous la dictée ou sous le flux et flot de l'oralité, qui étaient les figures qu'on peut rencontrer à la fois ceux qui prennent les sermons en forme sténographique, depuis Genève jusqu'à l'Angleterre, de Genève de Calvin à l'Angleterre du XVIIe siècle, ou bien ceux qui dérobent les textes de théâtre en assurant soit une reconstruction mémorielle, soit une transcription sténographique, ensuite transformée en un texte qui peut être donné à un imprimeur pour le publier. Donc le séminaire a porté l'attention sur ces figures historiques et différentes des copistes, et nous avions aussi porté l'attention sur, à partir de l'exemple espagnol, les mécanismes de la censure avec les administrations en charge de la censure, dans le cas espagnol, ceux qui avaient l'encomienda du processus, qui était un des membres du Conseil royal, sur la désignation et sur les lectures des censeurs, transformés en approbaciones, en autorisation, puis en privilège, et aussi sur la présence de ces traces du processus de censure dans les livres mêmes avec l'analyse des préliminaires et en particulier des deux parties de Don Quichotte, 1605 et 1615. Aujourd'hui, je voudrais porter plus l'attention sur, dans l'atelier, les figures ou les communautés de ceux qu'on appelle au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle les compositeurs, c'est-à-dire les ouvriers typographes, ceux qui composent le texte avec les caractères mobiles, et aussi ceux qui leur sont associés, c'est-à-dire les pressiers, ceux qui activent la presse qui permet d'imprimer les formes composées sur les feuilles qui doivent recevoir les pages qui leur correspondent. Alors pour commencer, je voudrais prendre deux textes qui donnent entrée à ce monde de l'atelier. Le premier, c'est les deux premiers paragraphes des Illusions perdues de Balzac. Le roman est publié en trois parties entre 1836 et 1843. Il faut bien aussi noter que Balzac n'était pas étranger au monde de l'imprimerie, puisque en 1826, il avait obtenu un brevet d'imprimeur, et pas pour une petite entreprise, enfin, puisqu'il possédait 7 presses Stanhope et 36 ouvriers qui publiaient à la fois des textes prohibés ou subversifs, et en même temps des pamphlets, libelles, mais qui finalement va faire échouer. Et ensuite, Balzac, dans le monde de l'édition, se repliera sur des activités plus éditoriales que d'imprimerie. Mais disons que c'est un des auteurs qui a cette connaissance de l'intérieur du monde des ateliers typographiques, et c'est comme cela que s'ouvre sur la césure qu'a représenté la première industrialisation ou mécanisation de l'imprimerie, celle qui porte sur le travail de la presse et de l'impression, que c'est comme cela que s'ouvrent les illusions perdues. Donc je lis. À l'époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope, c'est-à-dire la presse mécanique, et les rouleaux à distribuer l'encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. Malgré la spécialité qui la met en rapport avec la typographie parisienne, Angoulême se servait toujours des presses en bois auxquelles la langue est redevable du mot « faire gémir la presse », maintenant sans application. L'imprimerie arriérée y employait encore les balles en cuir frottées d'encre avec lesquels l'un des pressiers tamponnait les caractères. Le plateau mobile, où se place la forme pleine de lettres, sur laquelle s'applique la feuille de papier, était encore en pierre et justifiait son nom de marbre. Les dévorantes presses mécaniques, auxquelles nous devons, malgré ses imperfections, les dévorantes presses mécaniques ont aujourd'hui si bien fait oublier ce mécanisme auquel nous devons, malgré ses imperfections, les beaux livres des Elzévirs, des Plantin, des Alles, des Didot, qu'il est nécessaire de mentionner les vieux outils auxquels Jérôme Nicolas Séchard portait une superstitieuse affection, car ils jouent leur rôle dans cette grande petite histoire. Donc c'est une ouverture avec ce premier paragraphe qui est sur une discontinuité technique, mais qui du coup se transforme en une différence Paris-Province. À Paris, les imprimeries ont adopté cette presse mécanique, et qu'en province, à Angoulême, qui est le lieu où se déroule le commencement des Illusions perdues, on est attaché à la presse de Gutenberg, dont Balzac rappelle à la fois les fonctionnements, et avec les balles d'encre qui sont posées sur les caractères dans les formes, avec l'impression sur la pierre de la feuille de papier, et aussi le vocabulaire, faire gémir la presse ou le marbre pour désigner cette pierre sur laquelle est appliquée la feuille de papier en et qui va recevoir les caractères ancrés. Donc il y a là l'idée qu'à partir d'une invention technique, on peut opposer un présent et un passé, mais un passé qui est encore présent dans les lieux qui sont, comme écrit, ceux de l'imprimerie arriérée. Donc tout le contraste qui va être fondamental dans le roman, Les Illusions perdues, entre Paris et la province, est mis en littérature ou en scène à travers cette distinction entre l'atelier traditionnel hérité de Gutenberg et puis la première mécanisation de l'activité d'imprimer avant la mécanisation de la composition qui n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle avec la linotype ou la monotype, qui est la mécanisation de l'impression. Et du coup, on voit aussi avec cette expression que j'avais commentée dans un séminaire, je ne sais plus quelle année, cette grande petite histoire, c'est-à-dire qu'on est avec ce texte de Balzac devant la revendication par le romancier d'écrire, de l'écriture de la véritable histoire. C'est une petite histoire, Angoulême, un atelier d'imprimerie, et en même temps, c'est une pénétration à l'intérieur des distinctions, des différences les plus fondamentales de la France du début du XIXe siècle, et de là l'expression paradoxale de grandes petites histoires. Le roman s'attache à des petites histoires parce qu'il s'attache à des singularités, à des lieux, à des individus, à des intrigues, et en même temps, il est la grande histoire, parce que c'est à travers cette spécificité qu'il peut écrire ce que l'histoire du temps n'écrit pas, l'histoire du monde social, l'histoire des trajectoires, l'histoire des échecs, l'histoire des réussites, l'histoire des différences, l'histoire des affrontements. Donc on a cette première mise en place, et après, je vais continuer avec ce second paragraphe du texte, au moins une partie, Balzac entre dans cet atelier d'une imprimerie arriérée. Ce Séchard était un ancien compagnon pressier que dans leur argot typographique, les ouvriers chargés d'assembler les lettres appellent un ours. Le mouvement de va-et-vient, qui ressemble assez à celui d'un ours en cage par lequel les pressiers se portent de l'encrier à la presse et de la presse à l'encrier, leur a sans doute valu ce sobriquet. En revanche, les ours ont nommé les compositeurs, les typographes, ceux qui composent avec les caractères mobiles, des singes, à cause du continuel exercice que font ces messieurs pour rattraper les lettres dans les 152 petites cases où elles sont contenues. À la désastreuse époque de 1793, Séchard, âgé d'environ 50 ans, se trouva marié. Son âge et son mariage le firent échapper à la grande réquisition qui emmena presque tous les ouvriers aux armées. Le vieux pressier resta seul dans l'imprimerie dont le maître, autrement dit le naïf, venait de mourir en laissant une veuve sans enfant. L'établissement parut menacé d'une destruction immédiate. L'ours solitaire était incapable de se transformer en singe. Et ça, c'est la distinction entre le métier de compositeur, qui supposait évidemment une maîtrise de la lettre, et puis une série d'habitudes, décisions, choix, élections, et le métier de pressier, qui mobilise seulement la force physique de celui qui est capable de faire marcher la presse avec les coups du barreau de la presse. Donc l'ours ne peut pas devenir singe, car en sa qualité d'imprimeur, il ne sut jamais ni lire ni écrire. Ce qui était la tradition, l'opposition culturelle entre le monde des pressiers illettrés et le monde des compositeurs que les règlements anciens de l'imprimerie supposaient comme congrus en langue vulgaire et latine, donc dotés du savoir sur la lettre et sur les lettres. Sans avoir égard à ses incapacités, un représentant du peuple pressé de répandre les beaux décrets de la Convention investit le pressier du brevet de maître imprimeur et mit sa typographie en réquisition. Après avoir accepté ce périlleux brevet, le citoyen Séchard indemnisa la veuve de son maître en lui apportant les économies de sa femme, avec lesquelles il paya le matériel de l'imprimerie à moitié de la valeur. On voit ici le poids de l'événement, c'est-à-dire un sujet bien connu de Pascal Delvaux, la demande des institutions pour des publications éphémères que l'on appelle peut-être à partir du XIXe siècle seulement des travaux de ville. Et c'est là que l'imprimerie Angoulême trouve sa raison d'être. Ce représentant du peuple en mission à Angoulême a besoin d'une presse pour faire imprimer tous les beaux décrets de la Convention. Point d'ironie dans l'expression de Balzac. Et c'est à partir de là que Séchard garde l'imprimerie, la rachète à moitié prix à la veuve de l'imprimeur et va continuer une activité. Ce n'était rien, le fait de le coup. Il fallait imprimer sans faute ni retard les décrets républicains. En cette conjoncture difficile, Jérôme Nicolas Séchard eut le bonheur de rencontrer un noble Marseillais qui ne voulait ni émigrer pour ne pas perdre ses terres, ni se montrer pour ne pas perdre sa tête, et qui ne pouvait trouver de pain que dans un travail quelconque. Monsieur le comte de Maucombe endossa donc l'humble veste d'un prote de province. Il composa, lut et corrigea lui-même les décrets qui portaient la peine de mort contre le citoyen qui cachait des nobles. L'ours devenu naïf, qui est le surnom du maître imprimeur, les tira et les fit afficher. Et tous deux, ils restèrent sains et saufs. Voyons que la question pour ce pressier, c'est de trouver un compositeur qui est en même temps prote, c'est-à-dire chef de l'atelier, mais il est chef de l'atelier, il est chef de lui-même, puisqu'il n'y a qu'un seul compositeur et qu'un seul pressier. Mais la même chose, l'urgence de la publication des décrets officiels de la Convention qui justifie la poursuite de cette activité en décadence dans l'imprimerie d'Angoulême, le rachat par Séchard et l'embauche de ce noble qui ne voulait pas émigrer pour ne pas perdre ses terres et qui ne voulait pas se montrer pour ne pas perdre sa tête. En 1795, le grain de la terreur étant passé, Nicolas Séchard fut obligé de chercher un autre maître Jacques qui put être compositeur, correcteur et prote, un abbé depuis évêque sous la Restauration et qui refusait alors de prêter le serment, remplaça le comte de Maucombe jusqu'au jour où le premier consul rétablit la religion catholique. Donc on voit que l'effet révolutionnaire, c'est de faire que ce noble qui ne veut pas émigrer ou que ce prêtre qui reste réfractaire et qui ne veut pas prêter le serment à la constitution civile du clergé, trouve dans cet emploi très subalterne pour eux, mais protégé par le fait qu'il s'agit de la ville d'Angoulême et qu'en plus c'est une imprimerie qui travaille pour la Révolution, une manière de survivre. On a donc une description de l'atelier par Balzac à partir d'une formule, d'une forme évidemment élémentaire, puisqu'il s'agit d'un atelier où il y a un pressier qui devient le maître imprimeur. Et il y a un compositeur, correcteur et prote, c'est-à-dire l'ouvrier typographe, celui qui corrige à la fois le texte avant l'impression et pendant l'impression et avec la correction des épreuves, et le prote, c'est-à-dire celui qui organise le travail dans l'atelier. Mais c'est d'un seul et même homme, d'abord monsieur le comte de Maucombe et ensuite le prêtre réfractaire qui est engagé par Séchard qui déploie ce rôle. Donc on a là un texte évidemment extrêmement intéressant, puisque l'ensemble des Illusions perdues est un roman en grande partie sur l'activité d'imprimer, les formes de l'imprimerie, les nouvelles formes de circulation imprimée. Mais elle s'ouvre avec ces deux paragraphes qui sont ceux d'un contraste entre ce que n'est pas Angoulême, c'est-à-dire peut-être ce qu'est Paris de Balzac, un lieu où les imprimeries ont adopté à partir de la première présence d'une presse mécanique, c'est-à-dire dans l'atelier du Times, le journal de Londres, en 1812, ont adopté progressivement les presses mécaniques, et comme je le rappelais, Balzac disposait de 7 presses Stanhope, et le monde de la province qui est encore le monde du XVe siècle, qui est le monde d'une imprimerie dont la structure technique est celle de l'atelier de Gutenberg et dont la taille extrêmement réduite est peut-être d'ailleurs celle d'imprimerie du XVIIIe siècle qui, comme je le rappelais une fois, ont survécu dans un tissu assez dense en France sans imprimer aucun livre. Et on voit qu'ici, la demande d'impression, la demande d'imprimerie, elle est directement liée à la demande politique et administrative des représentants de la Révolution à Angoulême. C'est le premier texte. Le deuxième texte, vous le connaissez sans doute, puisque je l'ai commenté très souvent, mais on peut le reprendre en guise de préambule dans cet exposé, c'est la visite par Don Quichotte à Barcelone dans le chapitre 62 du Quichotte, d'une imprimerie dans la ville où il s'est rendu après s'être mis en chemin pour le nord, traversant l'Aragon et arrivant à Barcelone, où il veut voir deux choses. D'une part, les galères et en même temps la découverte de la mer, et d'autre part, une imprimerie, puisque se promenant avec Sancho et deux autres serviteurs, il advint, et je cite ici la traduction de la Pléiade établie par Jean Canavaggio, il advint qu'en passant par certaines rues, Don Quichotte leva les yeux et vit écrit sur une porte en fort grandes lettres « Ici, on imprime des livres. » « Aquí se imprimen libros. » Il en fut tout réjoui, car il n'avait jamais vu d'imprimerie jusqu'alors et il désirait savoir ce que c'était. On peut dire que c'est la première fois, je crois, dans la littérature occidentale, qu'une imprimerie devient un des lieux de la fiction, avec ce renversement très borgésien de Cervantes, c'est-à-dire que le lieu où est imprimé le livre que lit le lecteur devient un des lieux de la fiction lu par ce lecteur. Le monde prosaïque de l'imprimerie devient un des lieux de la fiction, alors que c'est ce lieu prosaïque qui est la condition de possibilité pour que la fiction circule. Ce n'est pas la première fois que des imprimeries sont présentes dans des textes anciens. J'avais cité et retrouvé un texte anglais qui est celui de William Baldwin, qui est de 1570, et qui est une discussion autour du feu, autour du nâtre, dans un atelier typographique. Mais l'atelier typographique ne joue aucun rôle particulier dans les dialogues de cette, qui sont ceux de la Marvelous History intitulée Beware the Cat. C'est un dialogue entre des animaux, mais qui n'est pas... qui a pour lieu l'imprimerie, mais elle ne joue pas un rôle. Dans le cas de Cervantes, je ne vais pas reprendre l'analyse, elle a un rôle important dans la fiction, et d'abord, et je m'en tiendrai là aujourd'hui, par le fait que Don Quichotte et son lecteur découvrent dans le regard porté sur l'atelier la division technique du travail qui caractérise le processus de publication d'un livre. Don Quichotte vit comment ici l'on tirait, là on corrigeait, là-bas on composait, ailleurs on révisait, avec tous les procédés qu'offrent les grandes imprimeries. Et là, le vocabulaire a de l'importance, d'abord parce que la traduction rend assez mal et ne peut finalement que rendre assez mal ce qui est la fin de cette phrase, et qui est que « finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra » la machinerie, la machine qui n'est pas une machine au sens de la presse de Stanhope, mais qui est l'association, de la liaison entre différentes opérations qui font machine. Et ce qui permettait aussi parfois, curieusement, de servir d'argument pour penser l'imprimerie comme un art libéral et non pas un art mécanique, malgré cette référence à la machina, parce que dans un art libéral, chaque opération est liée à une autre. Dans un art mécanique, elles peuvent être fragmentées, segmentées, dissociées. Donc, Don Quichotte se rend compte de cette machina. Et quelle est cette machina? C'est l'association entre les quatre opérations que décrit le texte, mais pas dans l'ordre chronologique où elles s'opèrent pour publication d'un livre, mais dans l'ordre où Don Quichotte les voit dans l'atelier. La première, ici l'on tirait, io vi tirare in una parte, tirare était le mot pour la presse, c'est-à-dire l'impression des formes composées sur les feuilles. Là, on corrigeait. Corregir est la correction des deux ou trois premières feuilles imprimées qui sont des épreuves et que l'on peut ou l'on doit comparer avec le texte de la copie et corriger les erreurs qui auraient été introduites par la composition. Là, troisième, componer est le travail du compositeur. Ici, un compositeur face à sa casse et composant page après page la partie du texte qui lui revient. Et finalement, le « on révisait » et la traduction de Enmendar, c'est-à-dire la rectification par les compositeurs des erreurs repérées dans les pages corrigées, mais déjà composées dans la forme d'imprimerie. Donc il y a une grande acuité de Cervantes par rapport à la division du travail entre pressier et compositeur et entre le travail de de composition, de correction et d'impression. Et cette acuité de ce regard est évidemment confortée lorsque on compare ce texte de Cervantes avec quelques-uns des textes écrits soit par des typographes eux-mêmes ou par des juristes engagés au service de la défense des immunités ou des privilèges des imprimeurs dans le siècle d'or espagnol, avec un des points que j'ai souvent souligné, c'est-à-dire la distinction ou l'articulation des tâches, non pas entre pressier et compositeur, puisque là, elle est claire, mais entre compositeur et correcteur, puisque, selon les cas, le correcteur peut être le maître imprimeur lui-même, peut être un des plus experts des compositeurs, ou peut être un professionnel de l'écriture, gradué d'université, maître de pension, de clerc. Et les distributions des tâches entre ce travail de correction, qui peut être d'abord l'établissement du texte, le copy editing, et qui, dans le cas de ce que décrit Cervantes, est la correction des épreuves, entraîne cette responsabilité qui est partagée entre le correcteur et le compositeur, et qu'on retrouverait dans tous les traités qui sont ceux sur l'imprimerie au cours des XVIe et XVIIe siècles. Un des textes qui peut faire écho avec ces textes du siècle d'or et avec la description de Cervantes, c'est un texte très fréquemment cité qui est le texte de Joseph Moxon, Les Mechanic Exercises on the Whole Heart of Printing, qui est un texte de 1683-84, qui est un peu une description idéale du fonctionnement d'un atelier, parce que Moxon n'était pas lui-même imprimeur. Donc il décrit avec minutie la séquence des opérations, à un point tel qu'on pourrait dire quelquefois que si on respectait le traité de Moxon, on ne pourrait jamais imprimer aucun livre. Mais en même temps, c'est la description la plus minutieuse, et là, le passage important, c'est sur le rapport entre compositeur et correcteur, à supposer donc que le correcteur est une fonction séparée, autonome. Le compositeur, pour Moxon, doit, je cite en traduisant, « son ambition doit être de rendre intelligible au lecteur le sens voulu par l'auteur et faire que son travail soit élégant pour l'œil et agréable pour la lecture. Si la copie est écrite dans une langue qu'il connaît, il doit donc la lire avec attention, de façon à entrer dans le sens voulu par l'auteur, et en conséquence, il doit considérer comment organiser son travail le mieux possible, tant pour la page de titre que pour le corps du livre, c'est-à-dire comment distribuer les paragraphes, la ponctuation, les coupures de lignes, les italiques, etc., de la manière la plus en accord avec le génie de l'auteur et aussi la capacité du lecteur. » On est en 1683-84 et on voit l'attribution de tâches qui sont les plus fondamentales pour la matérialité du texte, qui est donnée au compositeur. La création des paragraphes, donc la division entre des unités textuelles, les choix de ponctuation, et vous vous souvenez, dans le dernier séminaire, j'ai essayé d'insister sur la fonction expressive de la ponctuation, ou encore distinction des caractères typographiques en fonction de registre du discours, avec la mention des italiques. Et dans le même texte de Moxon, dans le même Mechanic Exercises on the Whole Art of Printing, vous avez la distribution de tâches qui est faite aux compositeurs. Ils sont à peu près les mêmes, mais qui sont de supervision, en quelque sorte, des décisions prises par le compositeur. Le correcteur doit examiner la ponctuation, les italiques, les majuscules mises par le compositeur, ainsi que toute faute que celui-ci a pu commettre par erreur ou par manque de jugement. On a là une double délégation de tâches qui pourraient nous paraître intrinsèques à l'écriture de l'auteur et qui sont en fait déléguées au compositeur puis au correcteur lorsqu'il corrige les épreuves et donc peut rectifier des erreurs commises par le compositeur. Et c'est à partir de ces définitions qu'on construit la représentation de l'imprimerie comme un art libéral. Ce qui est paradoxal, puisque même s'il n'y a pas de machine de type moderne, il y a néanmoins la presse à imprimer qui appartient au monde des machines. Mais c'est considéré comme un art libéral parce que c'est considéré comme la prolongation de la façon d'écrire par une autre technique, non pas simplement la copie manuscrite, mais aussi l'écriture typographique. et resteront dans tous les textes qui se voueront à cette tâche de définir l'imprimerie comme un art libéral, cette attention portée à l'importance des fonctions attribuées aux compositeurs et aux correcteurs. Pour terminer ce préambule, je voudrais donc du coup simplement rappeler un de ces leitmotifs du séminaire, c'est-à-dire le fait que la page imprimée est éloignée du texte manuscrit par cette série de décisions, d'interventions, d'habitudes qui font qu'un texte manuscrit, copié, dicté, rédigé ou copié, est transformé en une série de pages imprimées qui font le livre. Et que, évidemment, ces étapes successives, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, se traduisent par la disparition des objets qui précèdent chacune d'entre elles. Lorsque le manuscrit autographe de l'auteur est copié au propre par un copiste pour être envoyé à la censure, ce manuscrit disparaît. Lorsque cette copie au propre envoyée à la censure, préparée pour l'édition par le copie-éditeur, est transformée en un livre imprimé, en général, on l'a vu avec l'exception de l'Espagne, cette copie d'imprimerie disparaît elle aussi. Et de là la justification de cette idée que les auteurs n'écrivent pas les livres, puisque les livres ne sont pas écrits, mais sont des produits d'une activité mécanique, et donc supposant de multiples interventions. Alors pour entrer dans... plus avant dans cette analyse, après ces deux préambules, dont le second était bien connu, je crois que l'on peut d'abord porter l'attention sur les traces laissées parfois dans un certain nombre de livres par ce processus. Et on peut commencer avec un exemple tout à fait frappant qui a donné dans le livre de Robert Darnton sur l'encyclopédie, et en particulier l'édition de l'encyclopédie publiée par la Société typographique de Neuchâtel à partir de 1777. Dans le cas de Neuchâtel et de la Société typographique, il y a une particularité très rare dans le monde de l'imprimerie de l'époque moderne, c'est-à-dire le fait que la conservation de toutes les archives reliées non seulement au commerce du livre, ce qui a été l'objet des études principales de Darnton, mais aussi reliées avec le fonctionnement de l'atelier et avec les registres de paye des ouvriers, permet de donner des noms, des identités à ces compositeurs ou ces pressiers qui, généralement, ne sont que des anonymes lorsqu'il n'y a aucune archive d'entreprise, et en particulier de leur donner des noms à tous ces compositeurs que la bibliographie matérielle reconnaît par des différences dans les manières de orthographier, dans les choix de ponctuation, dans le type de caractère qu'ils utilisent, et qui reconstruisent les différents compositeurs qui ont participé de l'impression, de la composition d'un livre, mais ne peut que les désigner comme A, B, C, D, E. Dans le cas de Neuchâtel, on a une possibilité, par les archives, de leur donner une identité. Et je cite Darnton, c'était la page 180 de la traduction française. La page 635 du tome 15 de l'In-Quarto, de l'édition de l'encyclopédie, conservée à la bibliothèque de la ville de Neuchâtel, porte une empreinte de pouce, certainement fait par l'un des typographes de la STN. Le registre des salaires indique que l'imprimeur de cette page est un certain Bonnemain, vraisemblablement un surnom, mais bien prédestiné. Une lettre de Tonnet, maître imprimeur à Dole, rapporte que ce Bonnemain était un Normand aux cheveux noirs dont la carrière avait connu des hauts et des bas dans les ateliers de Paris. Après quoi, il était parti pour Lyon, où il s'était joint à la famille Kindelem, père, mère et fils, qui allait proposer ses services de ville en ville, d'atelier en atelier. Après avoir commis quelques coquineries à Lyon, citation d'un document, les Kindelem avaient pris la route avec Bonnemain, et à leur arrivée à Dole, ils s'étaient présentés chez Tonnet, qui imprimait des vitessins pour les colporteurs de Franche-Comté. Tonnet engage Kindelheim père et Bonnemain comme pressier et Kindelheim fils comme typographe. Cet arrangement ne tient pas longtemps car après avoir perçu une semaine de salaire et une avance sur le travail à venir, ils quittent la ville, jettent leurs feuilles imprimées par terre, enlèvent la fille de la maison, elle avait un faible pour Kindelheim fils, et s'enfuient par des chemins différents. Tonnet écrit alors à la STN pour la mettre en garde contre la bande. « J'entre dans le malheur d'un bourgeois qui ne peut tout faire lui-même », conclut-il. « Nous devons entre nous, maîtres imprimeurs, nous prévenir de quelques coquins qui sont parmi nos ouvriers. » Mais en fait, continue Danton, la STN ne tient pas compte de ces avertissements. Et, je cite, « Le registre des salaires indique que le père, Kindelheim, a travaillé 7 semaines pendant l'été de 1777 sous le nom de Rodolphe, pseudonyme qu'il avait déjà utilisé à Lyon, et le fils 3 semaines seulement. Quant à Bonnemain, il est resté à Neuchâtel du mois d'août 1777 au mois de mars 1779. Il est évident qu'il se plaisait suffisamment à Neuchâtel pour rompre avec ses compagnons de voyage et que la STN l'appréciait assez pour le garder, bien qu'elle ait assuré Tonnet qu'elle purgerait son atelier d'une si mauvaise compagnie. Donc on voit qu'à partir de la trace de cette empreinte laissée par la trace du pouce, laissée sur une feuille, on peut reconstruire beaucoup de l'histoire des typographes. Alors, cette empreinte visible, elle provient du fait que les ouvriers pressiers, pour faciliter la tâche, comme l'expliquent les textes du temps et comme l'explique Danton, avaient l'habitude de mettre une couche d'encre assez épaisse sur les caractères, ce qui limitait la nécessité de la pression ou la force de la pression. Mais du coup, cette couche assez épaisse d'encre pouvait se maintenir sur leurs doigts, et c'est comme ça que le pouce de Bonnemain se trouve sur une des pages de l'encyclopédie, comme une empreinte digitale sur un passeport. Mais dans la description d'Anton, évidemment, ce qui est important, ce qui est à souligner, et qu'on retrouve dans beaucoup de cas, c'est l'extrême mobilité de ses compagnons typographes ou pressiers, qui vont de ville en ville, d'atelier en atelier, qui ne se sentent liés par aucune fixité ou lien stable, et qui peuvent quitter, comme on le voit à Dole, l'atelier absolument spontanément. C'est d'autre part la faible durée, quelquefois, de leur séjour dans des ateliers. Ça peut être lié au fait que l'atelier n'a pas de travail à leur donner, ou ça peut être lié au fait qu'ils vont chercher des gages et des salaires plus élevés dans un atelier de la même ville ou d'une autre ville. Et on voit comment cette petite troupe de Kindelheim, père et fils, et de Bonnemain, à la fois s'assemble, puis ensuite se dissocie lorsque Bonnemain restera presque 2 ans à Neuchâtel. On voit qu'il y a là une... dans le monde du travail, un cas extrême d'une sorte de mobilité qui est caractéristique des trajectoires de ces ouvriers typographes ou de ces ouvriers pressiers. Dans l'analyse que l'on peut faire aussi du métier, il y a plusieurs traits qui peuvent être mentionnés. Le premier trait, en dehors de cette mobilité, instabilité, on pourrait même dire liberté dans le travail, il y a un trait fondamental qui est la relation à l'écriture. C'est tout à fait peut-être attendu, puisque les règlements anciens prévoyaient que les compositeurs, pour le moins, devaient être lettrés. Mais en fait, elle prend différentes formes, cette relation à l'écriture. La première forme, c'est celle que l'on pourrait trouver lorsqu'il a été possible d'établir des statistiques d'alphabétisation à partir de signatures dans des documents notariés, comme l'avait fait Nathalie Davis pour Lyon au XVIe siècle, et où l'on voit que 2/3 des ouvriers d'imprimerie sont capables de signer, donc on peut supposer d'entrer dans l'alphabétisation, ce qui est plus qu'évidemment beaucoup d'autres professions qui leur pourraient être comparées. Et donc, du coup, ça crée cette idée que si on admet que le critère de la signature est un indice assez sûr pour une capacité de lecture, et peut-être, mais pas nécessairement, pour la capacité d'écriture. C'est le paradoxe, évidemment, de l'indice de la signature, puisqu'il est la seule source pour dresser des statistiques d'alphabétisation pour les sociétés d'Ancien Régime. Alors, on a pu montrer, effectivement, qu'il y avait d'ailleurs une population d'hommes et de femmes capables de lire qui est plus grande que la population donnée par le pourcentage de signatures, puisqu'on peut aussi lire sans savoir signer. Et que, d'autre part, savoir signer n'est pas nécessairement le signe de la maîtrise de la capacité à écrire. Et que donc, on a une indication assez rigoureuse, parce qu'on peut compter des signatures et faire des statistiques, mais assez floue sur ce qu'elle indique du point de vue de l'alphabétisation. Elle minore sûrement la population des possibles lecteurs et elle majeure la population de ceux qui savent écrire. Mais néanmoins, avec 2/3 d'ouvriers d'imprimerie à Lyon au XVIe siècle qui peuvent signer, on a cette idée qu'ils pouvaient aussi lire les textes qu'ils composaient. Peut-être pas les textes de l'érudition latine ou des éditions grecques, mais en particulier les textes de la controverse religieuse, les textes de la dévotion en français et, lorsqu'elles existaient, des Nouveaux Testaments. Donc c'est un premier rapport à l'écrit. Un deuxième rapport, c'est que c'est dans le monde des ouvriers d'imprimerie que l'on rencontre sans doute un des deux milieux les plus aptes et les plus prompts à écrire des textes de nature autobiographique. L'autre milieu, comme l'avait montré dans un merveilleux article Daniel Fabre, c'est le milieu des bergers, qui sont obligés à l'écriture par leur propre profession, c'est-à-dire le fait d'enregistrer les marques faites sur les animaux, les comptes pour être remis ensuite aux propriétaires des troupeaux, et finalement une capacité à la maîtrise de l'écriture. Et donc le milieu des bergers, comme le montrait Fabre, des pasteurs, des bergers, comme vous voudrez, il y a ce premier support à la construction d'une figure qui est celle des almanachs, c'est-à-dire le berger comme maître du déchiffrement du mouvement des astres, comme le grand calendrier compose des bergers, le berger comme finalement l'auteur de ces almanachs qui sont une manière de maîtriser le temps, les nombres et l'écrit. Et que finalement, par un mouvement en retour, cette capacité mise en avant dans les almanachs attribuée à une figure mythique de berger est réappropriée par les bergers eux-mêmes, qui au XVIIIe et plus encore au XIXe siècle deviennent de véritables, pour au moins certains d'entre eux, graphomanes, produisant de l'écriture, et parmi ces écritures aussi des écritures de nature autobiographique. Alors par rapport à ce monde des bergers dans le monde rural, l'autre milieu dans lequel on a pu trouver un nombre plus important que dans d'autres métiers d'écrivains de leur propre vie, et le monde des ouvriers typographes ou compositeurs. Et on le voit avec, on peut prendre 2 ou 3 exemples tout à fait symptomatiques. Le premier, et qui d'ailleurs croise les deux métiers porteurs d'autobiographie, c'est le cas de Thomas Plater, étudié ici aussi dans un livre par Leroy Ladurie, mais dont l'autobiographie est commencé en 1572 à la demande de son fils, qui lui est devenu un notable, il est médecin à Bâle, et le père raconte dans cette autobiographie une mobilité sociale, des errances, les dangers qu'il a affrontés, pour un temps aussi comme berger, et puis ensuite son installation comme imprimeur à Bâle, d'abord en association, puis seul. Donc il y a là l'autobiographie, entre guillemets, de Thomas Plater est un premier témoignage sur ce lien entre les métiers de l'imprimerie et la volonté, le désir, la capacité à écrire une autobiographie. Le second exemple qui a fait couler de l'encre, qui est normal pour l'imprimerie, c'est l'exemple de Nicolas Conta, qui est un apprenti puis imprimeur dans l'atelier de Vincent à Paris, rue Saint-Séverin, pas très loin d'ici, et qui est devenu une figure très visible lorsque Danton s'est saisi de ce que l'on peut considérer comme un texte autobiographique, mais avec beaucoup de précautions, pour construire un article fameux sur le grand massacre des chats, c'est-à-dire le fait que les ateliers de la rue Saint-Séverin, en 1742, si je me souviens bien, massacrent les chats d'un maître imprimeur comme forme de protestation ou de ressentiment contre les dures conditions imposées par ce maître imprimeur, à la fois pour le travail et pour leur existence. Et c'est un des articles que l'on trouve dans le recueil de Danton, publié sous ce titre, « The Great Cat Massacre », et qui a donné lieu à toute une série d'échanges, y compris avec moi-même, mais aussi avec Dominique Lacapra et Jim Fernandez, sur comment lire ce massacre de chats comme forme de protestation sociale, mais avec un enjeu finalement plus méthodologique, c'est-à-dire ce massacre est un massacre de chats de papier, puisque c'est un récit. Et est-ce que ce récit n'a pas sa propre logique, indépendamment du fait que des chats ont été massacrés ou non dans la rue Saint-Séverin ? Et donc, du coup, ça posait la question du genre du texte, qui s'appelle « anecdote typographique », où l'on voit la description des coutumes, mœurs et usages singuliers des compagnons imprimeurs. C'est un texte écrit vers 1762. C'est une description du monde des ateliers et du monde des compagnons, mais qui ne se présente pas directement comme un récit autobiographique. Ce n'est pas le cas comme chez Plater. Anecdote typographique. Et avec une idée fondamentale derrière, qui est l'idée que ce monde des ateliers, en particulier le monde des compagnons et des compositeurs et des typographes et des pressiers, constitue une sorte de république. Je cite Conta, « C'est un peuple, ou plutôt une république, qui vit séparée des autres nations et dont l'attachement à ses lois, l'union et l'amitié qu'ils se portent mutuellement, a quelque chose que l'on doit regarder avec étonnement comme le fruit des beaux ouvrages qui sont continuellement dans leurs mains. L'histoire de cette petite république ne peut que piquer la curiosité du public. C'est pour la satisfaire que j'ai entrepris ce petit ouvrage. » On voit donc que le statut donné par Conta à son ouvrage, c'est à la fois une histoire qui doit rendre visible ce qui est des pratiques de communauté, sinon cachées, mais du moins ils ne sont pas immédiatement publics, et c'est d'autre part une idéologie, puisqu'il s'agit de montrer qu'il y a là une république au sens d'une communauté qui est organisée selon ses propres principes, ses propres valeurs, ses propres lois, et qui est différente des autres nations, dit Conta dans le texte. Donc, évidemment, cette réflexion sur la nature du texte est une manière de mettre en question une lecture trop directe de la description que fait Conta de ce massacre des chats, comme s'il s'agissait d'un récit immédiatement et proprement autobiographique. Et si on suit la lecture des anecdotes typographiques plutôt avec cette dimension, c'est-à-dire une histoire d'une communauté qui a ses valeurs et ses pratiques spécifiques, on voit que plusieurs éléments fondent cette histoire. Le premier, c'est la description des apprentissages comme des initiations, avec des épreuves, un baptême, un serment. Le deuxième élément, c'est une connaissance d'un langage propre qui sert à désigner à la fois les pratiques du métier, les objets du métier et un certain nombre de rituels du métier, de divertissement, et en particulier ce qui est appelé par Conta les copies, le fait que critiques adressées par exemple au maître peuvent être transformées en une petite scénette, en une satire, en une imitation des personnages, tout ce qui se passe dans le massacre des chats, de la rue Saint-Séverin, c'est-à-dire une parodie, une satire qui vise le maître à travers cette mise théâtralisée qui s'achève dans le texte et peut-être dans la réalité avec le massacre des malheureux félins. Et le troisième élément qui est fondamental pour comprendre cette idée de la République, pas au sens moderne du terme, mais au sens d'une communauté qui se régit à partir de ses propres principes et de ses propres valeurs, c'est l'idée de solidarité qui est fondamentale dans tout le texte. C'est-à-dire une solidarité qu'on voit à l'échelle de l'atelier, avec l'organisation de la chapelle, c'est-à-dire le partage de l'argent que lève la communauté, la chapelle de l'atelier, l'association des compagnons qui la constituent, et qui lève à la fois de l'argent par des amendes mises par ceux qui violent telle ou telle loi, et d'autre part par des contributions qui sont demandées ou qui sont levées avec une certaine force de conviction sur les libraires ou sur les fondeurs de caractères ou sur les papetiers. Et ces ressources sont gérées par cette chapelle qui est l'organisation solidaire de l'atelier. Mais cette solidarité, elle vaut aussi à l'échelle de la ville, entre les compagnons de différents ateliers, avec ce que Contat appelle la charité des ouvriers, c'est-à-dire finalement une association ou une assemblée avec une levée de cotisations sur ses propres membres, mais qui permet une organisation de secours mutuel pour ceux qui seront dans le besoin, malades ou blessés. Et malgré l'hostilité des maîtres, je prends la description qu'en fait Nicolas Contat, dans ce texte qui était resté évidemment manuscrit, le texte de 1762, en entrant, l'on donne 12 sols en entrant dans l'atelier, et par semaine 3 sols, c'est-à-dire 12 sols par mois, mais d'autres 4 par semaine. Moyennant cette petite aumône, lorsque quelqu'un des associés tombe malade, après que sa maladie a été constatée, il reçoit 9 livres par semaine qu'on lui fait tenir exactement, et 6 livres pour la convalescence, qui se paye la première semaine que l'ouvrier commence à travailler pour aider le convalescent à se procurer son besoin. C'est-à-dire qu'on a affaire à un travail qui est à la tâche et qu'un ouvrier convalescent est évidemment moins actif ou moins vigoureux pour la tâche. Et donc, du coup, la charité lui apporte un complément de salaire, on pourrait dire, tant qu'il ne peut pas ou ne veut pas travailler avec la pleine capacité. Il est à présumer qu'un ouvrier qui relève de maladie n'est guère en état de remplir une journée et de produire de l'ouvrage. Ces sortes d'établissements, quoique très louables, sont pourtant secrets, et la police en a fait casser quelques-uns qui avaient imprimé leur statut. Les assemblées sont défendues, et tout ce qui, en apparence, alarme le gouvernement. Les maîtres, avec cela, grossissent les objets. Les meilleures vues sont traitées de cabales. Malgré cela, il y en a plusieurs qui subsistent depuis très longtemps et qui ont actuellement des fonds assez honnêtes. On voit qu'un des traits aussi qui caractérise les métiers du livre, comme on dira à partir du XIXe siècle, c'est cette idée précoce d'une solidarité, et non seulement une solidarité dans l'atelier, mais une solidarité au-delà de l'atelier et qui s'organise à partir de ces, au début du XIXe, on parlera de sociétés de secours mutuels, mais qui peuvent être considérées à la fois comme des cabales, des coalitions qui viseraient par leur unité ou leur alliance d'atelier en atelier à faire pression sur les maîtres pour faire augmenter les salaires, et c'est la raison pour laquelle elles peuvent être mal vues par les maîtres et pourchassées par les autorités. Et d'autre part, le fait que par rapport à l'ordre politique, toute forme d'organisation qui soit une organisation qui se soustrait comme petite république à la res publica, dont le seul garant est évidemment le souverain, peut être aussi considérée comme dangereuse et donc pourchassée. Pour continuer l'idée de textes biographiques ou autobiographiques ou descriptifs sur le métier du livre fait par les ouvriers du livre eux-mêmes. On pourrait continuer avec le récit mis en fiction, qui serait le livre fameux de Rétif de la Bretonne, Monsieur Nicolas, à partir de l'expérience de Rétif de la Bretonne, qui a été ouvrier dans de multiples ateliers pendant le XVIIIe siècle, aussi bien à Paris qu'en province, et puis achever cette incomplète série d'autobiographie, entre guillemets, puis c'est une catégorie évidemment anachronique, aucun de ces textes ne portait comme titre autobiographie, pas même celui que je veux évoquer maintenant et qui, dans toutes les éditions modernes, est appelé autobiographie, c'est-à-dire l'autobiographie de Benjamin Franklin, imprimeur à Philadelphie, puis à Londres. Mais l'histoire du livre de Franklin est extrêmement intéressante. Il a d'abord été publié en français comme la vie privée de M. Benjamin Franklin. Et la première traduction anglaise, ou la première traduction anglaise de cette traduction française, avant qu'on publie le manuscrit effectif de Franklin, était aussi The Private Life of Mr. Benjamin Franklin. Et ce n'est que très tardivement que des éditeurs modernes ont baptisé comme autobiographie ce texte qui avait le titre de vie privée, qui est un thème intéressant puisque dans un de ses derniers livres, Danton montre que vie privée peut être souvent le titre d'un pamphlet ou d'un libelle qui va dévoiler des secrets d'une existence et en général des secrets qui tourne autour de la corruption ou de la dépravation. Donc il y a une connotation de vie privée, la vie privée de Madame du Barry, la vie privée de tel ou tel personnage. C'est connoté comme étant le dévoilement des turpitudes morales de héros. Mais on voit aussi que le terme peut être employé au XVIIIe siècle, la première édition de Benjamin Franklin est de 1791, comme étant la séparation entre ce que l'on connaît déjà comme vie publique, c'est-à-dire l'action politique, et l'entrée dans une intimité qui est le récit de l'enfance, de l'adolescence, de la trajectoire personnelle. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas de connotation du type pornographico-politique, comme dans le cas des vies privées étudiées par Danton, mais une césure entre le personnage public bien connu et, d'autre part, cette entrée dans l'intimité de l'individu. Et dans le cas de la autobiographie de Benjamin Franklin, de nombreux épisodes sont liés à son travail dans les imprimeries, d'abord à Philadelphie, puis à Londres. Dans ce cas-là, l'entrée en écriture est directement liée au travail de l'atelier. Je n'ai pas recherché récemment la traduction de l'autobiographie, donc j'ai le texte en anglais, je vais essayer de traduire comme ça. C'est au moment où il est à Londres, il est dans l'atelier de Palmer, et il dit « J'étais employé à la composition de la seconde édition d'un livre qui s'appelle « Religion of Nature » de Wollaston. Quelques-uns des raisonnements ne m'apparaissait pas bien fondé. » Donc là, on a vraiment un compositeur qui lit. Il lit réellement le livre en même temps qu'il le compose. « J'écrivis une petite pièce métaphysique dans laquelle je faisais des remarques sur le livre « Religion of Nature » et je l'avais intitulé « Une dissertation sur la liberté et la nécessité, le plaisir et la douleur. » Je mentionné à mon ami Ralph, et j'en imprimais un petit nombre. Cela créa le fait que j'ai été mieux considéré par M. Palmer, le propriétaire de l'atelier, et considéré comme un jeune homme avec un certain talent, bien que il était en profond désaccord avec moi sur les principes de mon pamphlet qui lui apparaissait abominable.